Europe 1, il est 8h.
Ces clusters que l'on enregistre sont plutôt ou en entreprise, en milieu clos, parfois dans des familles, parfois dans des EHPAD.
89 clusters à travers le pays, des renforts envoyés en Guyane. Le confinement de retour localement en Allemagne et au Portugal peut-il venir reverrouiller la France ? Question posée dès le début de ce journal. Mozart, auditionné par les députés ce mercredi. Mozart, c'est Didier Raoult. Selon Didier Raoult, la commission d'enquête va l'interroger sur la partition qu'il a jouée pendant la crise.
Je serai attaché à lui demander comment il a réussi à tester beaucoup plus massivement, précocement, systématiquement.
Les municipales et un bastion de droite qui va vivre un second tour pour la première fois depuis la Libération. Ça valait bien une alliance des Républicains et des marcheurs pour contrer les Verts.
Nous n'avons pas attendu que M. Hormic soit candidat pour nous préoccuper de ce que doit être une vraie transition écologique.
Bientôt des class action à l'échelle de l'Europe pour ceux qui rêvent de faire plonger des multinationales. Et puis un plongeon, c'est précisément ce que nous ferons en profitant des piscines privées que louent des particuliers. 38 euros la demi-journée tout de même, c'est cher pour se mouiller.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Eric Combe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. 8h30, comédien Molière du meilleur acteur dans la catégorie théâtre privé. Interview exceptionnelle avec Nils Arestrup sur Europe 1. 8h45, Nicolas Canteloup à la revue de presse, bien sûr. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, François Geffrier.
Les chiffres sont pourtant rassurants. Presque 75 000 personnes sorties guéries des hôpitaux depuis début mars. Quelques dizaines de patients de moins chaque jour en réanimation. On est à 682. Et un nombre de décès toujours en ralentissement.
Pourtant, tout près de chez nous, à Lisbonne et dans certains cantons d'Allemagne, le confinement fait son retour. Est-ce que cela peut nous arriver ? Pauline Jacquot, certains critères seront déterminants.
Tout l'enjeu, c'est de maîtriser les clusters. Si jamais ces foyers d'infection n'étaient plus sous contrôle, alors il faudrait créer, comme en Allemagne, un cordon sanitaire pour circonscrire le virus. Un reconfinement local pour pouvoir remonter et casser les chaînes de contamination. 239 clusters ont été repérés en France depuis le déconfinement. Un tiers sont en cours d'investigation. Tous les autres sont maîtrisés. Peu probable donc pour le moment que la France doive reconfiner une partie de sa population, selon l'épidémiologiste Antoine Flao, qui relativise les images des foules lors de la fête de la musique.
Les rassemblements à l'extérieur ne sont pas très générateurs de ces clusters que l'on enregistre de ci, de là, qui sont plutôt ou en entreprise, en milieu clos, parfois dans des familles, parfois dans des EHPAD ou des services médicaux, mais plutôt dans des milieux fermés, pas très ventilés, que dehors dans la rue.
La clé, rappelle-t-il, c'est que le nombre d'enquêteurs soit suffisant pour tracer les cas contacts et ne pas se laisser déborder par l'épidémie.
L'épidémie qui touche fortement la Guyane. 2600 cas confirmés par l'Agence régionale de santé, dont la directrice générale le disait. Sur Europe 1, dans le journal de 6h, c'est assez fatigant pour tout le monde. Des renforts humains et en matériel sont promis. 15 respirateurs ainsi que du dexaméthasone.
Ce traitement qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, réduit la mortalité des patients gravement atteints. C'est une couillonnade. Déclaration du professeur Didier Raoult ce matin dans le journal Le Parisien.
Son franc-parler et son ego auront tout le temps de s'exprimer à partir de 17h à l'Assemblée nationale. C'était logique d'auditionner le célèbre infectiologue marseillais, selon les députés que Claudia Bertram a interrogés.
Il aurait été complètement anormal de ne pas auditionner le professeur Raoult, qui a fait partie du paysage de cette crise sanitaire.
Pour la députée LREM Brigitte Bourguignon, il faut que la commission qu'elle préside entende toutes les visions sur la gestion de la crise, même les plus polémiques. Le rôle du professeur marseillais pendant la crise justifie son audition, estime le socialiste et vice-président Boris Vallaud.
Il y a eu des controverses sur l'efficacité ou pas de la chloroquine. Et donc il est important qu'on puisse comprendre les choses. Il ne s'agit pas de décerner de brevets aux uns et aux autres, ou de disqualifier ou qualifier tel ou tel.
Le professeur Raoult sera aussi interrogé sur son retrait du conseil scientifique ou encore sur les tests. Certains affirment que le bilan de l'IHU de Marseille est meilleur que dans le reste du pays. Et le rapporteur LR, Éric Ciotti, veut comprendre pourquoi.
Le manque de tests a été un des défauts majeurs de notre pays. Je serai attaché à lui demander comment il a réussi à tester beaucoup plus massivement, précocement, systématiquement.
La commission veut entendre un maximum d'acteurs scientifiques et politique. Demain, c'est le professeur Karine Lacombe, très critique envers Didier Raoult, qui sera auditionné.
Une arme contre le chômage. Arme comme activité réduite pour le maintien en emploi. On attend les premiers arbitrages sur ce dispositif. Nouveau rendez-vous à l'Élysée aujourd'hui pour les partenaires sociaux, alors que les prévisions sont de 900 000 chômeurs de plus en 2020.
On ne peut pas en rester là, déclarait sur Europe 1 l'avocat de François Fillon la semaine dernière, alors que l'ancienne procureure Éliane Houlette avait reconnu avoir subi des pressions en 2017. La défense de l'ancien Premier ministre demande la réouverture de son procès.
Le jugement était attendu dans 5 jours, lundi, mais maître Antonin Lévy estime que les procédures en cours justifient qu'on revoie un peu le calendrier.
Vous avez d'abord une commission d'enquête parlementaire qui va se dérouler. Vous avez le Conseil supérieur de la magistrature qui va entendre des magistrats. Nous pensons que ces investigations vont pouvoir jeter un jour nouveau sur ces débats que nous avons eus et viennent confirmer ce que nous dénonçons depuis le début. Le tribunal peut naturellement écarter notre demande et considérer qu'il est suffisamment éclairé en fonction des éléments dont il dispose aujourd'hui. Il peut également l'accueillir en tout ou partie et décider de repousser le délibéré pour pouvoir prendre en compte dans une question de semaine les prochains éléments qui doivent advenir.
L'avocat Antonin Lévy, joint pour Europe 1 par Alain Accaud. Ce matin, la Conférence nationale des procureurs de la République dénonce la suspicion permanente qui entoure, selon elle, l'action des parquets et elle redemande la mise en œuvre d'une réforme profonde de leur statut.
C'est un événement quasi historique qui va se dérouler à Bordeaux ce dimanche. Un second tour d'élection municipale pour une ville fidèlement accroché à la droite depuis plus de 70 ans.
À l'issue du premier tour, les écologistes étaient en bonne position, mais avec le jeu des alliances, ils risquent d'être déçus, Stéphane Place.
96 voix d'écart seulement à l'issue du premier tour entre le maire sortant et son adversaire écologiste. Et une quadrangulaire en perspective. Mais ça, c'était avant la crise sanitaire et avant l'alliance du maire LR, Nicolas Florian, avec le marcheur Thomas Cazenave, un front anti-écolo, selon le candidat vert Pierre Urmic.
On a vu deux candidats qui se sont affrontés, souvent invectivé à l'occasion du premier tour et qui, à l'occasion de ce front anticlimat qui a été décliné en même temps dans des grandes villes, ça a été Lyon, ça a été Strasbourg et ça a été Bordeaux, on voit bien qu'il y a une organisation de la droite conservatrice pour faire bloc aux écologistes. Ça veut dire qu'on leur fait peur. Moi, je reste sur les résultats du premier tour et non pas sur un sondage.
Sondage récent qui place en tête Nicolas Florian.
Nous n'avons pas attendu que M. Urmic soit candidat pour nous préoccuper de ce qu'on doit être une vraie transition écologique. Deux objectifs majeurs, c'est que d'ici la fin du mandat, nous soyons arrivés à ce que 100 000 habitants de Bordeaux soit en énergie propre, les réseaux de chaleur, c'est le photovoltaïque, l'hydrolien, l'éolien. Il faut aller plus loin sur la rénovation énergétique des bâtiments. Second objectif, c'est le zéro déchet.
Également qualifié pour ce second tour, le candidat anticapitaliste Philippe Poutou, bien décidé à peser sur la gestion municipale des prochaines années. Bordeaux, Stéphane Place, Europe.
Alors y a-t-il un front anti-écolo ? C'est un résumé caricatural, déclarait il y a quelques minutes Pascal Canfin, invité d'Europe 1. Lui-même marcheur, ancien d'Europe Écologie Les Verts. Pour lui, c'est ce parti qui a refusé les alliances avec En Marche. Le sectarisme, il est du côté des Verts, dit-il.
Europe 1. Vous restez avec nous dans un tout petit instant, des consommateurs de toute l'Union européenne qui pourront bientôt s'allier en justice contre une entreprise.
Et puis le président des États-Unis qui ne peut pas tout tweeter, il a de nouveau été censuré.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h10. La suite du journal, François Geffrier, Mathieu Béliard.
C'est une vraie avancée pour les droits des consommateurs. La possibilité de mener des actions groupées en justice à l'échelle européenne.
Isabelle Horry, un compromis vient d'être trouvé à Bruxelles.
Oui, c'est même un accord historique selon les associations de consommateurs. Elles le réclamaient depuis 30 ans. Pour y arriver, il aura fallu le Dieselgate et tous ces automobilistes trompés par Volkswagen sur les normes de CO2. Alors qu'aux États-Unis, la firme allemande a déjà dû verser 20 milliards d'euros, elle n'a encore quasiment rien payé en Europe. En France, il y a bien une loi sur les recours collectifs depuis 6 ans, mais elle est trop contraignante et peu utilisée. Le nouveau texte sera plus efficace, promet Geoffroy Didier, son rapporteur au Parlement européen.
Ce sera plus facile, plus simple, et ce sera surtout aussi international. Si par exemple, vous voulez mener une action contre une entreprise allemande et que vous êtes lésé, vous, Français, mais aussi des consommateurs espagnols, vous pourrez mener une action commune et ainsi avoir beaucoup plus de chances de voir votre préjudice réparé.
Les plaignants devront se regrouper via une association de consommateurs reconnue. La nouvelle loi couvre les biens, l'environnement, la santé, mais aussi les droits des passagers face aux compagnies aériennes. Une fois le texte définitivement adopté, dans les prochaines semaines, les pays de l'Union auront 2 ans pour le transposer dans leur droit national.
Isabelle Horry, ça n'était pas arrivé pendant les 3 premières années de son mandat, un message du président des États-Unis censuré par le réseau social Twitter à nouveau.
Vincent Hervouet, le texte, le message, le tweet est perçu, dénoncé comme un comportement inapproprié.
Oui, François, pour la 3e fois, Twitter corrige Real Donald Trump. 3 fois en 3 semaines, le réseau prend de l'assurance. Twitter reproche au président d'avoir défié les activistes qui ont tenté de dresser un campement devant la Maison Blanche, rebaptisé pour l'occasion Maison Noire. S'ils essayent, ils feront face à une force conséquente, a averti Donald Trump. Et cette façon de dire « Viens là si tu l'oses » a choqué les modérateurs. L'élève Trump est donc coiffé du bonnet d'âne et son tweet affublé de la mention qui précise qu'il enfreint les règles du réseau. La première fois, un message contre le vote par correspondance avait fait tiquer Twitter, qui avait dénoncé un mensonge en argumentant, document à l'appui. La 2e fois, c'est l'apologie de la violence qui est invoquée face au Donald Trump promettant des balles aux pillards. Et bien cette fois, c'est une simple mise en garde présidentielle qui provoque la censure.
Et selon Twitter, ce qui est inapproprié, c'est de souhaiter nuire à une personne ou à un groupe.
Oui, ben voyons. George Floyd est mort le 25 mai. Depuis 1 mois, l'Amérique est emportée par une fureur iconoclaste. Aux grands hommes d'hier, la patrie incandescente jette l'esclavage, le racisme, la violence sociale au visage. Mais Donald Trump est une statue à déboulonner pour les Savonarole du numérique. Le paradoxe, c'est que le candidat Trump est le premier des iconoclastes. C'est en tapant sur l'establishment qu'il espère encore l'emporter. Et le zèle de Twitter est donc sans doute contre-productif.
Le regard international de Vincent Hervouet, tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1. On en vient à cette nouvelle mode, louer une piscine privée chez un particulier pour quelques heures seulement. Voilà qui devrait faire un carton ces jours-ci avec la vague de chaleur sur la France.
C'est un petit peu mieux qu'une piscine gonflable d'un mètre carré. Ça fonctionne sur la plateforme Swimmy pour quelques dizaines d'euros. Hélène Terzian.
Bienvenue à la maison. L'eau est à 30 degrés, donc elle est vraiment juste exceptionnelle.
Merci.
On espère que ça vous convient.
Très bien.
Franchement, c'est comme sur les photos.
Elles en ont rêvé pendant le confinement. On salivait devant leur écran. C'est enfin derrière leurs lunettes de soleil qu'Emma et ses copines voient la piscine de Nicolas.
Je me sens capable de sauter du premier coup.
Mais avant, Emma, des recommandations sanitaires.
Nous, on a nettoyé absolument tout ce qu'il y a, transat et tout, tout est clean. On
respecte les distances.
Voilà, ça vous va ?
Oui, très bien, merci.
Voilà, super.
2, 3.
Ouais ! Elle est trop bonne, j'aime trop. Je ferme les yeux et je suis en Espagne, à Cuba.
Sauf que c'est bien moins cher, 38 euros par personne la demi-journée et à seulement 20 minutes de chez elle. Filon idéal aussi pour Honorine qui télétravaille sur le transat.
Entre 2 plongeons, je peux recevoir un appel d'une de mes collègues.
Voilà. Mais il faudra peut-être pas mettre la visio.
Je vais éviter.
Allô Honorine.
Allô.
Amusé depuis sa véranda, Nicolas se réjouit déjà de pouvoir offrir très vite de nouveaux moments comme celui-ci.
Il y a une très forte demande, entre 10 et 12 demandes, rien que là pour les 3 jours à venir.
Boosté par l'arrivée des très beaux jours, la location de piscine devient aussi une option pour ceux qui ne partiront pas cet été.
Voilà, ça c'est pas délocalisable, on peut pas télé-baigner, se télé-baigner.
Non, on peut télétravailler à la piscine dans notre particulier par contre. À réfléchir, on l'a entendu dans le reportage d'Hélène Terzian. Merci François Geffrier. Vous êtes sur Europe 1, 8h15, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il n'est ni alarmiste ni optimiste, égal à lui-même depuis le début de l'épidémie. Le professeur Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière, parle de ce qu'il sait et reconnaît quand il ne sait pas, une qualité qui n'est pas très répandue. A tout de suite pour l'entretien.
8h15.
Europe 1, il est 8h18, la matinale, Mathieu Béliard.
Et votre invité, Sonia Mabrouk, c'est le professeur Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour à vous, professeur Éric Combe.
Bonjour.
La communauté scientifique, qui n'a pas toujours été d'accord, semble désormais craindre unanimement un rebond de l'épidémie. On doit vraiment craindre cette fameuse 2e vague, professeur ?
En fait, tout dépend un peu de nous. Si on fait les choses correctement, je pense qu'on n'aura pas de 2e vague. Mais si on ne fait pas les choses comme il faut, on aura une 2e vague. C'est absolument inéluctable.
Nous, ce sont les citoyens, mais nous, c'est aussi les pouvoirs publics. Est-ce que tout est suffisamment fait pour conjurer justement ce risque ? Je parle par exemple de la stratégie de dépistage qui peut casser les chaînes de contamination.
Alors effectivement, vous avez raison de résumer les choses comme ça. Il y a nous, individus, les précautions, les gestes barrières, le masque, et puis il y a nous, collectivités. Effectivement, c'est ce qu'on résume par les 3 verbes, tester, tracer et isoler. Et la question qu'on doit se poser, c'est exactement celle que vous posez, c'est-à-dire est-ce qu'on fait ça correctement aujourd'hui, tester, tracer, isoler ? J'en suis pas sûr.
C'est encore trop faible en France, insuffisant.
C'est trop faible, on ne teste pas assez, on n'attaque pas correctement les chaînes de transmission, il y a un problème au niveau du traçage des contacts, donc il y a un vrai problème au niveau des clusters. Je crois qu'on n'en identifie pas assez.
Mais expliquez-nous, professeur Eric Combes, ce matin, on regarde du côté de nos voisins allemands et on cite souvent l'exemple avec cette stratégie très efficiente de dépistage. Et pourtant, l'Allemagne reconfine aujourd'hui malgré cette stratégie.
Ben, ça prouve bien qu'on peut avoir une deuxième vague si on prend pas bien les choses. Donc l'exemple de l'Allemagne, effectivement, c'est un très très bon exemple. Ils ont confiné de manière quand même très très localisée. Et il vaut mieux confiner de manière très localisée que de confiner de manière très élargie. Et ils l'ont fait avec juste raison. Ils ont identifié un énorme cluster et ils veulent casser les chaînes de transmission à partir de ce cluster.
Donc ces reconfinements ciblés, localisés, sont la procédure à suivre et l'exemple allemand reste malgré tout le modèle.
Oui, enfin pour moi, c'est plutôt l'exemple asiatique qui est un modèle, hein, notamment l'exemple de Taïwan ou de Singapour ou de la Corée du Sud, mais si on se focalise sur l'Europe, effectivement, l'exemple allemand est l'exemple à suivre.
Plus largement, professeur Eric Combes, quand on vous lit, on lit vos récentes déclarations, vous ne dénoncez pas les rassemblements, ce que l'on voit aujourd'hui en France, notamment à Paris ou ailleurs, à la fête de la musique. Vous semblez avoir un regard indulgent, alors que certains s'offusquent de voir de plus en plus de personnes ne pas porter le masque et ne pas respecter les gestes barrières.
Oui, effectivement, vous avez raison de souligner ce paradoxe apparent. J'ai pas eu envie de stigmatiser les jeunes, je dois avouer franchement. Alors peut-être que c'est de la faiblesse de ma part, mais je peux pas m'empêcher de faire le parallèle, si vous voulez, entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Et je trouve qu'il n'y a aucune raison d'être hyper sévère sur ce qui se passe à l'extérieur et d'être complètement laxiste sur ce qui se passe à l'intérieur. Or, je trouve que pour les comportements à l'intérieur, dans les lieux clos, on a une tendance au laisser-aller qui est absolument certain. Dans les transports, tout le monde ne met plus le masque. Dans les magasins, de moins en moins de personnes mettent le masque. Et donc, ça m'inquiète beaucoup plus que des jeunes qui font la fête dehors. D'autant plus qu'après 3 mois de confinement, on peut comprendre qu'ils en avaient besoin et envie.
Mais si je vous entends bien, professeur Combes, de tels rassemblements extérieurs sont moins vecteurs de contamination, de propagation de l'épidémie. Selon vous, est-ce que c'est prouvé scientifiquement ?
Alors, justement, autant on sait que ça se transmet très bien à l'intérieur, autant à l'extérieur, on ne sait pas. Donc, je prends un peu argument de ça, si vous voulez, pour dire, faisons la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Après, il ne faut pas oublier que quand on voit les jeunes à l'extérieur, on peut être rassuré, mais il ne faut pas oublier que malheureusement, ils se retrouvent dans les bars aussi à l'intérieur à un moment, et c'est dans les bars que ça va se passer à l'intérieur. Ce sont tous les lieux clos qui posent problème. Les lieux ouverts n'en posent probablement pas tant que ça. Donc, je pense qu'il faut être très rigoureux, très strict dans les lieux clos, mais qu'à l'extérieur, on pourrait être, un peu plus relâché.
Il y a aussi le comportement, professeur Combes, de personnalités qui ont valeur d'exemple, forcément pour les plus jeunes, notamment dans le sport. Et quand on voit le comportement du joueur star Djokovic, positif au Covid, et qui a fait fi de toutes les précautions, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce sont des modèles, forcément, pour toute une génération.
Ben, ce sont peut-être des modèles, mais ce ne sont pas des modèles qui donnent le bon exemple. Or, pour moi, un modèle, c'est quelqu'un qui doit donner le bon exemple. Non, je suis désolé, ce ne sont pas des modèles. Ils n'ont pas respecté les règles. Je crois qu'il y a des chaînes de transmission qui ont démarré, d'ailleurs, à propos de cette réunion tennistique, si on peut dire comme ça. Et ça prouve bien que, voilà, si on ne respecte pas les précautions barrières, on engendre des chaînes de contamination. C'est un très bon exemple, finalement.
Oui, c'est un très bon contre-exemple, finalement.
Un très bon contre-exemple, exactement.
Professeur, est-ce que vous suivez, est-ce que vous avez pris le temps et est-ce que vous avez le temps, surtout, de suivre quelques-unes des auditions par la commission d'enquête sur la gestion sanitaire dans notre pays ?
Écoutez, non, malheureusement, j'ai pas le temps. Je dois vous avouer qu'il y en a qui ne m'auraient pas beaucoup intéressé.
Je peux vous demander lesquelles ?
Par exemple, comme celle de William Dabb hier, m'aurait beaucoup intéressé, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment des choses importantes à dire et qui aurait été un leader incontestable pour gérer cette épidémie.
Je peux peut-être vous faire un résumé, en tout cas, de ce qu'a dit Jérôme Salomon. Je ne sais pas si son audition vous a intéressé
ou
vous aurait intéressé,
Salomon,
mais j'ai compris. Ouais. Directeur général de la Santé, qui, devant les membres de cette commission, défend son bilan, affirme que chaque pays a été surpris, au fond, et que c'est ainsi. Est-ce que ça suffit comme défense aujourd'hui ?
Non, mais je suis très gêné par ce genre de choses, parce que c'est faux. On ne va pas tourner autour du pot. Bien évidemment, il y avait des pays qui étaient informés, qui ont fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai cité tout à l'heure Taïwan, Singapour, la Corée du Sud. Sud. Enfin, ce ne sont pas les exemples qui manquent. L'Allemagne, voilà, je ne vais pas me lancer dans ces polémiques-là, c'est une perte de temps.
Donc quand il dit cela, c'est faux, devant la commission d'enquête?
Bah oui, c'est faux, mais je crois qu'il n'y a pas que ça qu'il a dit qui était pas tout à fait vrai, disons.
Vous pouvez me dire ce qui n'est pas vrai dans sa bouche?
Bah, je crois qu'au niveau... Mais je n'ai pas envie de revenir là-dessus, mais...
Mais sans aspect polémique, la question, professeur Combes, très sérieusement ce matin, c'est de retenir les leçons, justement, c'est de conjurer ce deuxième
vague. Écoutez, je suis d'accord avec vous, c'est exactement ça. Il faut retenir les leçons de nos échecs pour pouvoir aborder cette deuxième vague. Et je ne crois pas que c'est en forcément écoutant les responsables, disons, que l'on va avancer. Or là, je suis un peu inquiet parce que je trouve qu'on n'a pas pris correctement les enseignements de cette première vague épidémique. Et quand je vois par exemple que j'ai des collègues qui m'appellent dans des hôpitaux pour me demander comment gérer des clusters dans leurs hôpitaux et qu'apparemment ça ne se fait pas bien, ben, je pense qu'il y a un vrai problème, quoi. Je me demande même si on a vraiment compris le message.
C'est grave ce genre d'appel à ce que vous nous dites ce matin?
Ben oui, mais...
Mais c'est la réalité de la situation.
Je dois avouer que la première fois qu'on m'a appelé la semaine dernière, bon, je me suis dit que oui, ça arrive, des erreurs ou des manques. Mais là, on m'a réappelé encore deux fois cette semaine, depuis le début de la semaine, alors qu'on est que mercredi. Et donc, je vois bien que c'est pas... Même nous, dans l'hôpital, on n'arrive pas à bien gérer nos cas. Alors vous imaginez à l'extérieur.
Vous ne serez pas surpris, je ne sais pas si vous allez la regarder cet après-midi, l'audition du professeur Raoult qui annonce déjà la couleur, non? Bon, non, affirmant qu'il y a deux fois plus de morts parce qu'on n'a pas soigné les gens. Mais au-delà de la personnalité, au-delà du constat, si vous aviez une question à lui poser, le professeur Raoult, ça se fait entre collègues, entre professeurs, qu'est-ce que vous lui demanderiez?
Moi, je ne lui demanderais rien parce que je ne pense pas qu'on joue dans la même cour. Lui, il appartient à l'élite, c'est une star. Et moi, je ne suis ni une élite, ni une star.
Il y a beaucoup d'ironie dans ce que vous dites là.
Oui, mais c'est quelque part une réalité. Je pense qu'on vit dans deux mondes qui sont
vous
complètement différents.
Vous êtes deux grands professeurs, vous êtes deux grands scientifiques reconnus.
Peut-être. Je n'en suis pas complètement sûr, en ce qui me concerne en tout cas.
En tous les cas, professeur, et ça rejoint tout à l'heure la manière dont je vous ai annoncé, c'est que vous dites quand vous savez et vous dites quand vous ne savez pas. Et ça rejoint d'ailleurs la leçon que vous promulguez à vos étudiants. Et ça vient de Confucius, c'est
oui,
bien ça?
Alors effectivement, Confucius a une très belle formule qui, je pense, est très importante et qui s'appliquerait d'ailleurs à Didier Raoult sans aucun problème. La formule, c'est savoir ce que l'on sait, savoir qu'on le sait, savoir ce que l'on ne sait pas, savoir qu'on ne le sait pas, c'est savoir véritablement.
Je vous propose de laisser nos auditeurs méditer, et nous-mêmes également.
Oui, c'est une très belle formule.
Merci professeur Combes, c'est un plaisir. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h27, vous êtes sur Europe 1. À suivre sur Europe 1, l'immense comédien Nils Arestrup, auréolé d'un Molière hier soir. Il sera avec nous dans un instant, à tout de suite.
Il est 8h30 et retour à présent sur la cérémonie des Molières. C'était hier soir. Invité exceptionnel ce matin sur Europe 1, Mathieu Béliard, votre invité, c'est le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé, l'immense Nils Arestrup.
Bonjour Nils Arestrup.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on dit à un comédien comme vous qui vient d'avoir ce prix? Félicitations peut-être?
Surtout on dit ce qu'on veut, c'est un truc spontané. On est content, on n'est pas content, j'en sais rien. Mais oui, moi je suis content évidemment.
Vous êtes content évidemment. Alors cette cérémonie des Molières, on en a parlé sur Europe 1 cette semaine. Cérémonie sans public. Vous vous sentez comment ce matin par rapport à d'autres occasions de ce genre?
Oui, c'est curieux. Mais enfin, en même temps, il y avait pas mal de monde d'une certaine façon. Je pense que la plupart étaient des comédiens ou des gens qui étaient concernés directement par la cérémonie. Donc on n'avait pas une impression de vide, mais dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé, c'était assez chaleureux et sympathique.
Quel était votre sentiment en entrant dans ce théâtre du Châtelet, en entrant dans un théâtre, en retrouvant cette famille du théâtre?
Ouais, la famille du théâtre, c'est pas tellement les meubles, c'est pas tellement le décor, c'est surtout les gens. Donc on était, nous, la petite équipe qui a travaillé sur cette pièce rouge. Et donc, je me sentais à l'aise, tranquille, comme maintenant. Et voilà, je suis toujours content de pouvoir y retourner. Ça fait quelques mois que je n'avais pas mis les pieds sur un théâtre. Mais rien n'a changé, à part qu'il y a moins de monde.
L'Académie des Molières dit aux Français cette année « Il fallait voir Nils Arestrup jouer le peintre Marc Rothko ». La pièce « C'est rouge » de John Logan, succès outre-Manche, mise en scène de Jérémy Lippmann. Parlez-nous un tout petit peu de cette pièce. C'est une pièce en huis clos sur le processus créatif, on peut le dire comme ça ?
On a le droit de dire comme ça. C'est évidemment plus compliqué que ça. C'est la relation entre un peintre, qui est Marc Rothko, et un assistant. Il arrive à un endroit de sa vie où il commence à être un peu fatigué. Il travaille sur des très grands formats et donc il a besoin de quelqu'un qui l'assiste et qui l'aide. Chose qu'il n'aime pas du tout a priori. Et donc il rencontre un jeune garçon qui lui était dans une école de peinture qui a été sélectionné pour passer quelques mois et en fait ça va se révéler être presque 2 ans avec lui. Et donc c'est la relation entre ces deux générations. Un homme qui a, à cette époque-là, une 60aine d'années, disons, et puis un jeune gars qui débute, qui commence. Et la relation tourne autour, en effet, de l'art, de la création, des responsabilités de la création.
Sa caverne, son atelier, le processus créatif, disais-je, et vous l'avez évoqué, l'apprentissage aussi. Hein, vous avez utilisé le mot de transmission.
Oui, il y a toujours une transmission entre un type qui fait quelque chose depuis... très longtemps et quelqu'un qui veut faire cette chose et qui démarre. On va bien sûr parler de ça. On va parler de la peur, on va parler du trac, on va parler de la responsabilité de l'art, en l'occurrence de la peinture. On va parler de l'éducation, on va parler de la culture et on va aussi rigoler de temps en temps parce que au bout d'un certain nombre de mois, quelque chose se détend entre eux. C'est une pièce de conversation, c'est une pièce de dialogue, c'est une pièce d'action. On les voit peindre tous les deux, on les voit traîner dans cet atelier que lui il appelle la grotte et voilà.
Je vous cite dans la pièce Nils Arestrup, le noir c'est le contraire du rouge.
Oui, enfin c'est une métaphore, c'est-à-dire que pour lui la vitalité, le sang, l'énergie a une couleur et lui pour lui cette couleur c'est le rouge. Et le noir est son obsession, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, c'est l'opposition entre la vie et la mort. Et le noir envahit petit à petit son travail, d'une certaine manière, parce qu'il sent, à cause de cette fatigue, à cause de cette maladie qui va l'emporter, et sans révéler un scoop extraordinaire, il va finir par se suicider. Donc forcément, il y a l'opposition entre ces deux couleurs, la lutte entre ces deux couleurs, qui revient aussi un petit peu autour de Nietzsche et de son texte qui s'appelle « La naissance de la tragédie », l'opposition entre Apollon et Dionysos. Mais vous voyez, ça fait très intello, là.
Oui, mais vous avez eu un Molière en même temps, Nils Arestrup. Vous pouvez, ce matin.
Je peux être un télo.
Je vous en prie.
Enfin, voilà. Le rouge, le rouge, c'est pour lui, en tout cas, c'est sa couleur. C'est sa vitalité, c'est son énergie. Et le noir, c'est ce qu'il y a devant, c'est ce qui va arriver. Il le dit d'ailleurs dans la pièce, la seule chose qui m'inquiète dans la vie, la seule chose qui me fasse peur, c'est que je sais que le noir un jour va engloutir le rouge.
Nils Arestrup, quand est-ce que vous reprenez sur les planches ou les tournages de cinéma ?
Écoutez, je suis comme tous mes camarades, quelqu'un qui aimerait bien, quelqu'un qui se demande si les choses vont bien tourner ou mal tourner d'ici la rentrée. Vous n'ignorez pas qu'il y a ce qu'on appelle des clusters, enfin des foyers. S'il y a vraiment ce qu'on appelle communément une deuxième vague, la possibilité de faire la tournée comme c'est prévu pour nous à partir du mois de septembre jusqu'à décembre, la possibilité de reprendre la pièce, ce qui est prévu aussi au Théâtre Montparnasse à partir de janvier de l'année prochaine, ce sont des hypothèses sur lesquelles on s'accroche et on a envie de s'accrocher. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On essaie de mettre toute notre énergie dans l'envie de repartir, dans l'envie de re-rencontrer les gens. Et je sais bien que le problème, peut-être le plus grand problème, c'est qu'il y a un tel traumatisme de se retrouver dans des endroits confinés pendant 1h30 ou 2h. Il faut que les gens aient du courage. Il faut qu'ils aient pas peur, comme on dit. Il faudrait qu'ils dépassent la peur avec le désir, ce qui n'est jamais complètement facile. Et donc on s'attend à des moments qui seront particuliers, qui sont sans doute un peu difficiles les premières semaines. Et en espérant que si tout ça nous reste au calme, le théâtre reparte. Voilà, mais je comprends. Même moi, j'ai une appréhension. que ce soit pour entrer dans une salle de cinéma ou dans une salle de théâtre. Et je vous dis, il faut simplement que le désir devienne assez fort à l'intérieur de chaque individu pour qu'il passe le pas, parce qu'on n'oubliera pas ça facilement.
Êtes-vous de ceux qui nous annoncent un monde d'après différent, ou est-ce que la vie après le confinement va reprendre comme avant, à vos yeux, Nils Arestrup?
Alors évidemment, il y a des événements extrêmement denses comme ça, comme celui-là, où les changements sont un peu plus importants. Mais la vie est toujours un mouvement. Et pour l'instant, voilà, on a une espèce de petit sourire d'optimisme, et on espère que ce sourire va pouvoir rester sur les lèvres. Avant que peut-être d'autres événements nous embêtent. Mais soyons optimistes. Vous savez, il y a des gens qui croient, et je comprends ça très bien, et puis il y a des gens qui espèrent. Moi, je suis un espérant. Bon, je ne suis pas un croyant.
Quelques débats de société ont émergé dans la cérémonie des Molières ces dernières années. Je pense au débat sur les violences sexuelles mis en avant par Blanche Gardin, le débat sur le racisme aussi par l'humoriste Fary. Est-ce que cette cérémonie, Nils Arestrup, est prescriptrice? Est-ce que c'est propre au théâtre, aux gens qui le font?
Non, ça c'est une... Je crois hein, que ce soit au cinéma ou que ce soit au théâtre, c'est dû à ce que j'essaye d'évoquer en disant que c'est un mouvement. C'est un mouvement, c'est une prise de conscience. C'est des choses sur lesquelles on est assis et sur lesquelles il va falloir apporter quelques changements. Parce qu'il est évident qu'on a besoin d'être peut-être tous un peu plus accueillants avec les gens qui viennent d'ailleurs, avec les gens qui ne sont pas toujours reconnus comme ils devraient l'être. Ça, ce sont des choses inévitables à changer et qui vont changer. Voilà, moi je ne suis pas du tout un politique, donc ça ne me regarde pas beaucoup.
Non, mais vous êtes un espérant, m'avez-vous dit. Vous dites ça va changer, ouais. Vous y croyez?
Je crois, je répète, que ça change tout le temps. Donc de toute façon, ça va changer. Peut-être plus fort que d'habitude, ça va forcément changer. Je ne sais pas si ce sera en bien ou en mal. J'ai essayé d'expliquer pendant la cérémonie, quand on m'a remis le César, que je trouvais que maintenant, peut-être, il faudrait commencer à se poser la question s'il faut faire une cérémonie qui est une compétition, et que moi, j'espère, puisque je suis un espérant, je rêve qu'on puisse faire une fête du théâtre comme on fait une fête de la musique, et où les intermittents, les connus, les pas connus, un peu partout, viennent apporter des textes aux gens, viennent chez eux, ou viennent dans des endroits, et que ce soit un peu plus festif.
Vous appelez à une fête du théâtre, comme la fête de la musique, dans les rues, dans toutes les communes du pays, les petits théâtres?
Oui, dans les rues, dans toutes les villes, mais les gens qui en ont envie, ce n'est pas une obligation. Donc je trouve que si on retire ce côté compétition et hiérarchie, peut-être qu'on gagne une liberté supplémentaire, et peut-être que ça donnera autant envie aux gens de venir au théâtre que la cérémonie des Molières, que je respecte, que c'est très bien. Mais peut-être qu'à côté, on peut créer en effet quelque chose qui soit un peu plus festif.
On va se quitter sur cette idée, une idée à mûrir. Nils Arestrup, merci mille fois à Molière du comédien dans un spectacle privé pour la pièce Rouge, mise en scène de Jérémy Lippmann, une pièce de John Logan. Merci mille fois, Nils Arestrup.
Merci à vous.
Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1, après Nils Arestrup, on l'attend. Et il est là. Nicolas Canteloup, la revue de presque. A tout de suite.
Europe 1, 9h moins le quart.
Et les voilà, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Mathieu Béliard, vous êtes prêt? C'est à vous tout de suite.
Ah oui, bonjour, bonjour Julie. Bonjour à tous. C'est Mathieu Béliard sur Europe 1. Rejoignez-nous jusqu'à. Sur Europe 1, bien sûr, c'est moi sur Europe 1 jusqu'à la fin de la saison et même après. Enfin, on espère tous. Enfin, surtout ma femme et moi. Allez, sois bon Mathieu, c'est le money time. Allez. L'info du jour, ça y est, c'est parti. Ce sont les fortes chaleurs partout en France. Et oui, après les municipales, on devrait sans doute du coup avancer les sénatoriales.
Hein?
Voilà, elle était bien, elle était classique, mais bien. Voilà. Une info pratique. Allez, on passe à autre chose. Ça marche. Le début marche pas. Allez, une info pratique.
Moi, je l'ai.
Importante. Une info pratique importante. Vous avez entendu notre passionnant sujet sur les locations de piscine. Eh bien, je rebondis. Des particuliers qui louent leur piscine à d'autres particuliers. Bien, je rebondis parce qu'il faut tendre la main. Je propose à Jean-Jacques Bourdin l'an prochain la location de mon studio. S'il veut venir en studio, 38 euros de l'heure, je peux lui louer si ça lui manque un petit peu. Voilà. Et puis, dernière info, c'est Didier Raoult. Didier Raoult qui va être auditionné aujourd'hui à l'Assemblée par les députés. Et oui, un spécialiste mondial des infections qui va être jugé quelque part par des individus qui n'y connaissent rien. On dirait le vote du public dans Top Chef, hein, des gens qui mangent des pâtes au beurre tous les jours. Décide qui est le meilleur cuisinier. Voilà, c'était mon coup de gueule. Dès que ça concerne la bouffe, je m'énerve. Vous l'avez compris.
Ça s'entend. Hein.
Et puis, avant de terminer, on a apprécié l'interview de Sonia Mabrouk, d'Eric Holmes, ce grand professeur de médecine, qui a conclu avec cette phrase de Confucius que je fais mienne. Ce qu'on sait, savoir ce qu'on le sait, qu'on le sait. Savoir qu'on ne sait pas, savoir qu'on ne sait pas. Savoir qu'on ne sait pas ce qu'on croyait savoir, c'est savoir qu'on croyait savoir ce qu'on ne sait déjà pas. Et c'est là qu'on voit vraiment ce qu'on sait. Donc merci à Confucius. Et oui, Confucius, ça vient de la racine latine. Confucius. Oui, c'était il était chinois, oui, mais c'est la branche chinoise des latins. Voilà. À vous, Julie.
Allez, ouf. L'Allemagne reconfine. Un foyer d'infection a fait son apparition et pourrait faire flamber l'épidémie. L'Allemagne devrait donc voir arriver cette nouvelle vague. On est en ligne avec Angela Merkel. Ça a l'air pas mal égout.
Ah, ils sont taquins à la régie. Ils m'ont mis le générique de Alerte à Malibu. C'est vrai que j'attends la deuxième vague. Dans mon maillot de bain rouge.
Oh, magnifique, magnifique.
Je suis un peu la Pamela Anderson.
Oui.
Enfin, moi, c'est plus Pamela Calberson.
Oui. C'est une marque de camion.
Oui, il faut le dire, parce que sinon, on ne comprend pas la femme. Et c'est tout de suite moins drôle si on ne sait pas que Calberson, c'est des camions.
Alors, Angela, le foyer d'infection, c'est dans une région de l'Allemagne qui s'appelle la Rhénanie du Nord-Westphalie.
Voilà, la Rhénanie du Nord-Westphalie. Tout le monde connaît la Rhénanie du Nord-Westphalie. Non. C'est très touristique. C'est dans la ville de Reda-Windenbrook.
Ah oui.
Tu connais, Mathieu ?
Oui, c'est à gauche après la poste.
Voilà, tu vois la ville de Gunterschloss. Tu prends la bretelle direction Kukischmutz. Tu continues sur Fantenkrucht. Tu prends la bifurcation sur Schuttenflart. Ouest, par la Est ou Sud. Et tu arrives sur Windenbrook Centre.
D'accord, parfait. Alors, la
version. Piquer notre sketch. Là, c'est notre sketch à nous,
un petit peu, oui, sur les noms de villes, ouais, c'est ça. Ça. Oui.
C'est du plagiat, ah, ça se fait pas.
Alors, Angela.
Oh, monsieur Richis.
L'affection vient du principal transformateur de porc du pays, de ses abattoirs, donc. Hein.
Ah, je suis. Puis c'est les abattoirs, les porcs. Je suis désolé pour les millions de Français qui rêvaient et pour l'été. Et de visiter des abattoirs de cochons en Allemagne.
Ah oui.
Ça ne sera pas possible cette année. Tiens, en parlant de petites cochons.
Quoi ?
Oh, Angela !
Oh non !
Oh, je suis tellement déçu, Angela !
Oh, Nicolas Barré, bonjour !
Ouais, bonjour, moi qui rêvais de ces vacances en Allemagne. J'ai une peau de roue au-dessus de 12 degrés, je prends même pas de coup de soleil, je prends des cloques directement.
Non.
Je cloque. En tout cas, vous êtes belle, Angela, déguisée en Père Noël. Oh non, c'est pas les rouges. Non, je suis déguisée en Pamela Anderson.
Oh là là, bon, bah écoutez, on va vous laisser tous les deux. Hein.
C'est le volume qui change.
À bientôt, Angela Merkel.
Ça me prie.
Dany Cohn-Bendit est très remonté contre Emmanuel Macron et il est avec nous ce matin. Dany.
Ouais, bonjour Thomas. Bah, je dis Thomas, on sait jamais, c'est le mercato, on sait jamais, il peut revenir Thomas.
Sait-on jamais.
Hein, je vais pas changer mes habitudes à la 48e minute.
Alors, je vais vous citer, Dany. C'est idiot de construire un rempart anti-écolo pour marcher main dans la main avec la droite conservatrice, avec des ringards comme Gérard Collomb. Voilà ce que vous avez
dit. J'ai dit ringard ?
Oui.
Ah, c'est pas bien. Ah. Non, c'est pas, non, j'essayais de dire ringard, c'est pas bien, je regrette, j'aurais dû dire débris, hein, j'aurais dû dire vieux crouton, j'aurais dû dire traite, j'aurais dû dire résidu, tête de pain sucée, Gérard Collomb, t'as pas de cou et t'as pas de colonne vertébrale non plus.
Oh là là, mais calmez-vous, oh Dany, allons. Et puis vous avez dit aussi, écoutez, vous avez dit, je voterai écolo partout où les écologistes sont en passe de prendre la mairie.
Mais carrément, Thomas, je voterai écolo à Lille, je voterai à Lyon écolo. Je voterai écolo à Strasbourg, à Bordeaux, écolo.
Non, mais attendez, mais vous êtes où là, Dany?
Hein, quoi, où je suis quoi?
Vous êtes là en ce moment, vous êtes où?
Ah, ben en Allemagne.
En
je,
Allemagne.
Vote, je vote qu'en Allemagne, oui. Bon, ben. Ouais, du coup, mon engouement, on s'en fout un peu.
Un petit peu, oui.
Bon,
oui.
Ben, c'est ce que je te dis. Ben, je te dis au revoir, Thomas.
Eh ben, on vous dit au revoir, Dany. Il était en double page dans Le Parisien avec ce titre. Arnaud Montebourg face aux entrepreneurs. Bonjour, monsieur Montebourg.
Salut la Julie. Salut le Baignard. Salut la Roche.
On
salut le Cabrol. Salut à toute la compagnie. C'est Arnaud l'entrepreneur. Le king de la start-up nichon. Nichon. Pardon. J'ai fourché.
Nichon. Oui.
Startup Nichon. Pardon. Oui. Je parle pas bien anglais. Tu sais que moi, je suis made in France, ma Julie.
Ah oui, oui, bien sûr.
Voilà. Je suis labellisé.
Dans cet article, vous prodiguez vos conseils à de jeunes entrepreneurs. Hein,
tout à fait.
Ouais.
Voilà. Mmh. En tant que Elon Musk français, en tant que patron d'une multinationale du miel et de la glace, je me devais de donner quelques conseils à nos compatriotes.
Même si vous avouez que la crise du Covid vous a impacté et que vous avez dû mettre vos employés au chômage partiel.
Ah, ça, tu l'as dit, Marcel. Ah, c'est sûr. C'est quand même pas de bol. Non, l'année, je vais te faire une confiance, l'année où je lance 3 sociétés, bim, le Covid. Et je suis déjà au bord de la faillite. À deux doigts de bouffer la grenouille. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas.
Et en plus, vous dites dans cet article toujours, j'ai mis toutes mes économies dans mes boîtes, 172 000 euros.
Eh oui, pas rien.
Bah oui,
pas 172 000, eh oui, 172 000 euros. J'ai dit. Alors bien sûr, les esprits chagrins, je vous vois venir là, tous autour de la table. Je vois ce que vous êtes en train de vous dire.
Quoi?
Un gars qui a 57 ans, après avoir bossé toute sa vie, qui a que 172 000 euros d'économie, bah, le gars, c'est pas Bernard Arnault. Hein, c'est pas Bettencourt au niveau du sens des affaires. Ben justement, donc je dis, il faut m'aider maintenant. Il faut que je vende de la glace.
Ah.
C'est ça, tombe bien, parce que là, pour le coup, j'ai du pot. C'est bientôt la canicule, Carole me l'a dit en rentrée.
Mais oui, alors c'est maintenant ou jamais pour votre glace qui s'appelle, je le rappelle, la mémère.
Monsieur Béliard, toi qui es une gourmande, avoue, hein, elle te fait saliver, ma mémère.
Mets-toi un petit rhum raisin de côté aussi.
Voilà, imagine-toi ce soir avec ta rhum raisin devant Netflix, bien loti dans ton canapé avec ma mémère. T'allumes une bougie, tu mets un disque de Barry Blanc.
Barry White.
Oui, mais je suis made in France, je te rappelle. Hein. Et là, une fois que l'ambiance est érotisée, hop, tu tapes ma mémère aux fraises.
Ah bon.
Ou en raisin, comme tu veux. À vous, ça fait envie. Allez, c'est pas. Allez, je t'en mets 3 pots d'un litre.
Ah, 3 pots d'un litre, c'est bien ça, Mathieu. Allez, c'est merci.
100 grammes aux fraises.
Merci bien, Arnaud Montebourg. Allez, pour terminer, bah écoutez, on va reparler de cette vidéo de Patrick Balkany. Il y en a une nouvelle, figurez-vous. Vidéo à la fête de la musique qui montre, pas uniquement en train de danser, hein, Patrick Balkany, mais également les mains aux fesses, des mains baladeuses, hein, d'accord. On le voit toucher les fesses d'une autre femme qu'Isabelle Balkany. Bonjour monsieur Patrick Balkany.
Oh, j'ai encore la fièvre. La fièvre du disco. Allez, venez, Madame Julie. Oh, mais non, mais je sais pas. Écartez pas, je suis pas contagieux. Vous pouvez vous coller contre moi. Ah, ça vient. Vous avez une chute de rein admirable.
Oh, mais bon, ça va, oui.
Oh, on peut s'amuser. Allez, c'est la fin de saison.
Vous allez avoir des ennuis, vous, hein. Vous avez été libéré de prison pour raison de santé et vous dansez dans la rue et vous pilotez des filles. C'est la belle vie, quoi.
Non, mais j'ai arrêté d'insinuer, je n'ai pas ploté de fille, madame.
Non, il se trouve
que j'ai un très grave problème de santé. Je fais de l'arthrite des doigts. Je dois faire des exercices permanents en empoignant des balles anti-stress. Vous savez, c'est mal pour fermer, ouvrir les algèbres. Bon, oui. J'ai fait une crise, j'avais rien à empoigner à part cette dame. Et j'ai fait comme ça, et là, aïe, pardon, ça me reprend vite pour que j'empoigne vos seins, madame Julie.
Oh, voilà. Non, mais ça va pas bien, monsieur Balkany.
Oui, mais je me sens pas bien. Faut que je prenne mes cacheries. Heureusement, j'ai pensé à prendre ma gourde. La vie de malade, croyez-moi, c'est quelque chose.
Oh, bah oui, oui.
C'est quelque chose, en tout cas. C'est la revue de presse que donne Nicolas Canteloup. Merci, Nicolas. Merci, Julie. Saluons les auteurs de Nicolas Canteloup et de la revue de presse, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. Vous retrouvez évidemment la revue de presque sur Europe1.fr. 8h56, il est là, il est en studio avec nous, Philippe Vandel. C'est l'heure de Culture Média, la matinée qui continue sur
Bonjour
Europe 1.
Mathieu Béliard, bonjour, notre premier invité vous concerne puisque ce sera l'avocat Éric Dupond-Moretti qui va vous rejoindre à la rentrée.
N'est-ce pas ?
7h50, un billet coup de cœur, coup de griffe, sa première interview radio, c'est dans quelques minutes dans Culture Média. Ensuite, il y aura le bouillant Philippe Etchebest, le chef doublement étoilé. M6 lui consacre une soirée spéciale avec un documentaire qui va surprendre. Et puis enfin, la stratosphérique Ariel Dombal pour son nouvel album Empire.
Fait Culture Média avec Philippe Vandel de 9h à 11h. La matinée continue sur Europe 1. Ombline, nous, on revient demain matin.
Oui, à partir de 5h avec Julien Pierce.
Je serai là en direct à partir de 6h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.
C'était Mathieu Béliard sur Europe 1.
Europe 1.